enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
La Bible dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, dit l'Éternel. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Père éternel, nous sommes dans ces temps maintenant, Seigneur. Répands ton esprit sur l'Église et suscite une génération d'hommes et de femmes revêtus de ta puissance pour ébranler les cieux, pour ébranler les forteresses, pour opérer des miracles dans leur propre vie, dans leur famille respective, dans leur environnement immédiat et même lointain, et dans l'Église et dans le monde entier. Suscite une génération d'hommes et de femmes conscients de leur identité, de leur destinée, afin de pouvoir, Seigneur, les utiliser comme des instruments pour embraser le monde entier par le feu de l'Évangile. Et tu m'as dit, Seigneur, que plusieurs de ces hommes et femmes, de ces jeunes et ces vieillards sont dans cette église. Et tu veux faire lever une armée, Seigneur. Et nous prions ce matin que cette parole aide chacun à rentrer dans sa destinée et à être utilisé par toi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu vas encore faire ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Notre Dieu est bon. Il est bon. Ces derniers temps, j'ai un thème dans mon cœur qui me pousse à adorer le Seigneur dans mes moments personnels avec lui. Et Dieu m'amène à adorer Jésus. Alléluia. Dieu m'amène à adorer Jésus. Non parce qu'il m'a aimé. Non parce qu'il m'a béni, non parce qu'il est tout puissant, non parce qu'il a fait de grandes choses. Mais Dieu m'amène à focaliser mon regard sur un aspect bien précis de sa personne. Dieu m'amène à adorer Jésus tout simplement parce qu'il est unique. Et quand je vois la vie de Jésus, je me rends réellement compte que Jésus est unique. Voyez-vous, Jésus, avant de venir sur la terre, son arrivée, sa venue a été prophétisée par plusieurs hommes de Dieu. Ésaïe a parlé de Jésus. Joël a parlé de Jésus. Ézéchiel a parlé de Jésus. Daniel a parlé de Jésus. Tous les prophètes des temps, de l'ancien temps, de l'ancienne alliance, ont parlé de Jésus. Et les Juifs savaient qu'un jour, le Messie viendrait. Et tout le peuple de Dieu, en Israël, attendait l'arrivée du Messie. Et Dieu m'amène à comprendre que Jésus était unique dans sa venue sur la terre. Parce qu'il n'y a aucun homme qui est né sur la terre dont la naissance ait été annoncée longtemps, 400 ans, 4 siècles avant, par plusieurs personnes qui ont vécu à plusieurs époques, à des endroits différents. Il n'existe aucun homme sur la terre dont la venue a été autant annoncé. Et Jésus arrive, il est né. La Bible déclare que 4 siècles après l'ancienne alliance, il est né conformément aux prophéties qui ont été annoncées. Et il arrive sur la terre. La Bible déclare qu'il est né d'une vierge. Aucun homme sur la terre n'est né d'une vierge. Et qu'il n'a pas été conçu par un rapport entre un homme et une femme, mais il a été conçu par le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est unique dans sa naissance. Alléluia. Personne n'est né comme lui. Il est unique dans sa naissance. Et la Bible déclare qu'il est aussi unique dans toute sa vie. Parce que quand il a vécu sur la terre, il a marché. Il est allé dans toutes les contrées de la terre. Il a parcouru la terre. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissants des ténèbres. Il était unique dans sa vie. La Bible déclare qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Il a été unique dans sa vie sur la terre. Et je peux adorer Jésus parce qu'aucun Dieu n'est comme lui. Alléluia. Il est unique dans sa vie. Il a vécu une vie de pureté, de sainteté. Il n'a pas connu la corruption. Il n'a pas connu le compromis. Il est resté unique. Et la Bible déclare aussi que Jésus était unique dans sa mort. Parce que la mort de Jésus a été annoncée. Il a dit, je serai crucifié à cause de vous. Je serai cloué à la croix pour vous. Mais je mourrai pour vos fautes. Oui, mais le troisième jour, je ressusciterai. Alléluia. Et la Bible déclare que le jour où Jésus est mort, bien aimé, c'était exactement comme les prophètes l'avaient annoncé. Et même Judas, son disciple qui était avec lui, qui l'avait trahi, toutes ces choses avaient été conformément écrites dans l'ancienne alliance avant que Jésus-Christ n'arrive. Et Jésus est mort. On l'a amené à la croix, comme l'a lu notre frère tout à l'heure, qui a cru à ce qui a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant nous comme une faible plante, comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Ce pourtant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est nos iniquités qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié pour nos fautes. Comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il s'est humilié. Il est resté obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et tout le monde confesse que Jésus est Seigneur. Et il est mort. Le jour de sa mort, la Bible déclare qu'il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Aucun homme n'est mort de cette manière. Une mort qui a marqué l'histoire de l'humanité entière. Au point que même ceux qui le crucifiaient ce jour se sont réellement rendus compte que celui-ci était réellement le Fils de Dieu. La Bible déclare qu'il a eu l'éclipse, il est descendu aux enfers. Il a affronté les puissances de l'enfer, les forteresses. Et la Bible dit que ce jour, il y avait un livre, il y avait un livre qui était dans le ciel, que nous révèle l'Apocalypse, ce livre sur lequel étaient écrites des condamnations de l'humanité entière. Ta condamnation, ma condamnation, tous les actes que nous avons commis étaient écrits dans ce livre. C'était le livre de la mort, le livre de la condamnation. Et ce livre t'attendait. Lorsque tu devais mourir, c'est ce livre qui devait te juger, qui devait te condamner. Tout ce qui a caractérisé l'histoire de ton peuple, de tes ancêtres, de ta famille, tous les liens ancestraux, toutes ces choses dont les ordonnances te condamnaient et qui se faisaient contre toi étaient inscrits sur ce livre. Et dans l'île de Patmos, lorsque Dieu se révèle à Jean, la Bible déclare que Jean voit le livre ouvert. Et il a regardé à gauche, à droite. Il a regardé devant lui, il a regardé derrière. Il dit qu'il n'a vu personne qui ait été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. La Bible déclare qu'il a pleuré, parce qu'il n'avait personne qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. La Bible déclare qu'à l'instant, un ange vola vers lui. Et il vint et dit, Jean, ne pleure pas, car voici l'agneau de Dieu. Alléluia. L'agneau de Dieu. Il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. La Bible dit que ce jour où Jésus est mort à la croix de Golgotha, la Bible dit que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, son sang a coulé. Alléluia. afin qu'il puisse nous délivrer de la captivité. Et ce jour-là, la Bible déclare qu'il est descendu aux enfers. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui se visait contre nous en le clouant à la croix. Alléluia! Il a brisé la malédiction. Il a brisé les alliances ancestrales. Il a brisé le pouvoir du péché. Il a brisé le pouvoir de la mort. Il a brisé le pouvoir de la maladie. Et ce jour, il t'a libéré. Et ce matin, tu peux me croire, tu es libre, car il est unique dans sa mort. Sa mort t'a libéré, sa mort t'a guéri. Il a dépouillé Satan de toute sa puissance. Et la Bible dit que ce jour, tous les morts qui étaient décédés, tous les gens qui étaient décédés dans l'ancienne alliance, dans la phase transitoire entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, et même dans la nouvelle alliance, tous les saints qui étaient morts se sont ressuscités. Et les tombeaux des saints se sont ouverts. Bien-aimés, les esprits des saints sont apparus au peuple dans toutes les contrées de la ville. Pierre est ressuscité. Alléluia. La Bible déclare que ce jour-là, Moïse est ressuscité. Jacob est ressuscité. Oh, alléluia. Isaac est ressuscité. Alléluia. La Bible déclare que les esprits des saints, parvenus à la perfection, sont apparus au peuple de Dieu partout. Alléluia. Bien-aimés, ce jour-là, Ézéchiel est ressuscité. Alléluia. Et il est apparu. Alléluia. La Bible déclare que même ceux qui étaient morts, depuis des siècles, se sont ressuscités. Et la Bible déclare que Jésus-Christ est descendu. Il a affronté Satan en face. Satan détenait les clés du séjour des morts. Il détenait les clés de ta guérison. Il détenait les clés de ta délivrance. Il détenait les clés de ta bénédiction. Il détenait les clés de ta prospérité. Il détenait les clés de ta fécondité. Il détenait les clés de ta famille. Il détenait les clés de ton emploi. Il détenait les clés pour tes papiers. Il détenait les clés pour ta promotion. La Bible déclare ce jour Jésus est descendu aux enfers. Dieu nous dit qui est descendu aux enfers, si ce n'est Jésus. Et il a affronté Satan en face. Et il a dit, Satan aujourd'hui, c'est terminé. Ton œuvre est terminée. Alléluia. Et la Bible déclare, il y a eu guerre dans les lieux célestes. Jésus a affronté Satan en face. Et bien aimé, Jésus est descendu aux enfers tout seul. Il n'est pas descendu avec les anges. Il n'est même pas descendu avec Dieu le Père. La Bible déclare à la croix, lorsqu'il s'est écrié « Eli, Eli, lama, labashtani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu l'avait abandonné. Pourquoi il fallait ceci ? Parce qu'il fallait qu'il endure lui-même la souffrance. Cela aurait été injuste de la part de Dieu de revêtir Jésus d'une onction spéciale pour aller à la croix. Parce que Jésus serait mort en ce moment-là, sur la croix, non de façon naturelle, mais de façon surnaturelle. Et le diable aurait accusé la justice de Dieu, en disant à Dieu, mais c'est trop facile. Il a sur lui une onction. Donc si on le cloue sur les mains, il ne ressentira rien. Si on le cloue les pieds, il ne ressentira rien. Ce sacrifice n'a pas de valeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia! Et la Bible déclare que sur la croix, Dieu a abandonné Jésus. Et c'est en cela que Jésus a prouvé son intégrité, sa fidélité, de sorte que même tout seul, il a accompli sa mission jusqu'au bout. Et il a affronté Satan en face. Il dit, c'est pour cela que je suis venu, pour délivrer le peuple de Dieu, de la servitude, de l'esclavage. Et la Bible déclare que là, il a affronté Satan. Il a arraché les clés du séjour des morts. Et les morts qui étaient morts dans la foi, les saints, sont ressuscités ce jour. Et Jésus, le troisième jour, il est ressuscité. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus n'a pas fait 3 jours dans le tombeau. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Jésus n'a pas fait 3 jours dans le tombeau. Jésus a fait 2 jours dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia! Ce matin, je vais te dire, c'est ton troisième jour. tu es resté longtemps dans le tombeau, c'est fini la mort. Tu vas rentrer dans ta destinée. Et le thème de ce mois, c'est la destinée. Alléluia. Alléluia. Et j'adore Dieu ces derniers temps parce qu'il est unique. Alléluia. Il est unique dans sa mort, dans sa résurrection et dans son ascension. Il est monté au ciel. Il est monté au ciel. Et il est monté au ciel, mais pas comme Jésus. Oh, alléluia. Enoch est monté au ciel, mais pas comme Jésus. Il n'y a aucun de ceux qui sont montés au ciel sans passer par la mort. À qui Dieu a dit, mon Seigneur, tu es mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marche-pied. Oh, alléluia. Il n'y a personne, alléluia. Il n'y a personne. On va chanter, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Que le chant montre, alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. On va louer le Seigneur. On va vraiment le proclamer avant d'écouter la prédication. Il n'y a personne comme lui. Alléluia. J'ai marché, j'ai cherché, je ne trouvais personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Et que le diable entende ce matin. Alléluia. Et que les organisations sataniques dans cette ville, dans cette nation l'entendent. Parce que Dieu amènera cette église dans sa destinée. Il n'y a personne comme Jésus. Le diable croit avoir gagné. Mais je vous dis, je vous déclare et je vous prophétise, il y a beaucoup de personnes. Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Il y a beaucoup de personnes, même de ceux qui ne viennent plus dans cette assemblée, qui reviendront un jour. Alléluia! Satan est un menteur. Il n'y a personne comme lui. Est-ce qu'on peut se lever? On va louer le Seigneur. Alléluia! Dieu a un peuple nombreux dans cette ville. Et Dieu veut faire lever une armée revêtue de l'esprit. Des hommes et des femmes qui embrassent le monde par l'évangile et qui bousculent les forteresses du diable. Il n'y a personne.
Il n'y a personne qui soit comme Jésus.
Alléluia.
Il n'y a personne qui soit comme Jésus.
Il n'y a personne.
Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui.
Il n'y a personne.
Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui.
J'ai longtemps marché.
Marché, personne.
J'ai tourné en rond.
Fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui.
J'ai longtemps marché.
Marché, personne.
J'ai même
personne,
tourné en rond.
Fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui.
Il n'y a personne.
Il n'y a personne qui soit comme Jésus.
Il n'y a personne.
Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui.
Non, non, il n'y a personne.
Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui.
J'ai longtemps marché.
Marché, personne.
J'ai tourné en rond.
Personne.
J'ai même fouillé.
Fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui.
J'ai longtemps marché.
Marché, personne.
J'ai tourné en rond.
Personne.
J'ai fouillé partout.
Nous allons rendre grâce à Dieu parce que Jésus est unique et proclamer des paroles prophétiques sur l'église. Élevons nos voix et prions ensemble. Nous te bénissons Seigneur. Merci Jésus parce que tu es unique. Il n'y a personne comme toi. Je viens te dire que je t'aime Seigneur. Je t'adore, je t'élève, je te couronne roi dans ma vie. car il n'y a personne comme toi. Et parce qu'il n'y a personne comme toi, comme c'est toi qui as suscité cette œuvre, tu la mèneras dans sa destinée. Oh, merci pour ce peuple nombreux que tu as dans cette ville, que tu vas amener dans cette église. Merci pour même ceux-là qui sont destinés pour cette église, qui sont peut-être découragés, qui ne viennent plus, mais que tu vas ramener, Seigneur Dieu, dans ta bergerie. Tu me l'as dit, et je sais que cela arrivera. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour cette église que tu tiens dans tes mains. Seigneur, merci pour le sang de la croix qui protège cette œuvre. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre, qui nous garde. Et le diable est un menteur, il est vaincu, il n'aura pas le dessus. Alléluia, la Bible déclare que le diable nous fera la guerre, mais il ne vaincra pas. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ton onction. Que ton nom soit béni ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons rasseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je vais vous partager quelque chose qui va faire du bien à nos âmes. Comme introduction au thème qu'on aura ce mois. Je ne dirais même pas ce mois parce qu'en fait, voyez-vous, c'est un message que Dieu a donné à mon cœur. Parmi tous les messages que je peux prêcher, le Seigneur m'a dit, je t'ai appelé à prêcher spécifiquement ce message. C'est le message de la destinée. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que dans plusieurs de mes messages, je reviendrai sur la destinée. Et je me suis demandé pourquoi. Et le Seigneur m'a montré pourquoi dans notre ministère, le message dominant sera le message de la destinée. Et j'ai pu me rendre compte de cela. Lorsque nous étions invité à l'église du Maroc pour donner un séminaire. Pendant 2 semaines, on a parlé au peuple de Dieu et Dieu m'a montré des signes, des prodiges, des miracles lorsque j'ai enseigné sur le thème de la destinée. Et j'étais fortement surpris de ce qui s'est produit au Maroc. Et le Seigneur, après cela, a confirmé à faire ces choses lorsque nous avons été invités, mon épouse et moi, à faire un autre séminaire à l'île de la Réunion. J'ai parlé de comment posséder les portes de sa destinée. Et là, j'ai encore prêché sur la destinée. Bien-aimé, j'ai vu des choses extraordinaires. Et le Seigneur m'a fait comprendre que, en fait, il appelle chaque serviteur de Dieu. Il lui confère une vision, une onction, un ministère. Mais ces choses ont un but. Les évangélistes, il y en a qui ont un message pour la repentance. Et lorsqu'ils prêchent sur la repentance, il n'y a pas de raison que le cœur ne fonde pas en larmes. Les gens sont obligés de pleurer sur leurs péchés. Le résultat normal, c'est qu'à la fin, les gens donnent leur cœur à Jésus. Parce qu'il a reçu un message sur la repentance. Voyez-vous, il y a des évangélistes qui prêchent sur la guérison. Ils ont reçu la vision, le message sur la guérison. L'onction pour cela. Et c'est donc tout à fait normal que lorsqu'ils prêchent sur la guérison, il y ait des malades qui soient guéris. Ils ont été appelés à cela. Tout le monde peut prier pour les malades. Tout le monde peut prier pour que les malades soient guéris. Les malades peuvent être guéris. Mais ceux-là, quand ils rentrent dans leur ministère, c'est différent. Alléluia. Il y en a qui doivent donner l'onction sur la sanctification. Quand il parle de la sanctification, bien aimé, tu es obligé de vivre dans la sanctification, d'haïr le péché. C'est le résultat, le but de son message. Il y en a qui Dieu donne un message sur l'amour. Quand il vous parle de l'amour, même si tu avais la haine, tu ne pouvais pas vraiment pardonner à quelqu'un. À la fin de ce message, tu es obligé de pardonner. Parce qu'il a été qualifié pour ça. Il a été au moins pour ça. Alléluia. Et de la même manière, il m'a dit, vois-tu, tu peux enseigner sur tout, tu peux prêcher sur tout, mais chaque fois que tu parleras de la destinée, je verrai les portes de la destinée à mon peuple. Et nous avons été surpris de voir les gens rentrer dans leur destinée. Je me souviens de ce jeune homme, il avait longtemps prié, il a longtemps jeûné, et il était fatigué parce qu'il voulait aller en Angleterre pour suivre ses études. Et chaque fois, il essayait de faire un visa, ça ne marchait pas, son dossier était rejeté. Et Il a passé des tests à Schoenberger et il a réussi à ces tests. On l'a appelé pour dire ça a marché. Seulement, tu dois attendre le jour qu'on va t'appeler pour commencer le travail. Et tous les autres qui ont réussi avec lui, eh bien, on les a appelés. Et lui, ça faisait plus d'un an, il attendait, on ne l'avait pas encore appelé. C'était anormal. Et ce jour, on a prié pour lui alors qu'on était en entretien. Et j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Il a eu son visa. Alléluia. Et je me souviens encore de ce jeune homme. Il est venu, il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Chaque fois que je m'engage avec une sœur, quelqu'un d'autre vient me la prendre. Ça fait 3 fois, pasteur, ça fait 3 fois. J'ai dit, ah, mon frère, il faut peut-être un PC de revoir ta stratégie. Mais le problème aussi n'était pas là, alléluia. Il y avait quelque chose derrière, alléluia. Et on a prié avec lui. Et bien aimé, la sœur en Christ avec qui il s'était engagé pour la troisième fois était partie avec un autre frère en Christ. Et ce frère en Christ a été bizarre. Un coup il est là à l'église, un coup il n'est pas là. Au point qu'il a entraîné la sœur en Christ avec lui. La sœur en Christ est venue plus à l'église. Nouvelle convertie. Et on a prié avec lui. Dans mon cœur, le Saint-Esprit me disait, en fait, c'est une œuvre du diable contre la vie de ce frère. C'est une malédiction sur sa vie pour l'empêcher de se marier. Je ne l'ai pas dit au frère. Je ne l'ai pas dit que, en fait, cette sœur-là devait revenir parce que ce frère-là, ce n'est pas sa femme, etc. Je ne l'ai pas dit. J'ai simplement prié. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, étends ta main. J'ai reçu un mail il y a 2 semaines. La sœur en Christ est revenue. Et là, j'attends l'invitation pour le mariage. Et il est rentré dans sa destinée. Alléluia. Et il y avait un autre jeune homme qui était dans la salle. Je le regardais et j'ai dit, jeune homme, viens ici. Est-ce que tu sais que tu as un appel pastoral sur ta vie? Il tremblait. Je dis, viens. Il dit, non, je ne suis pas pastoral. Je dis, si, reçois l'onction. Bien aimé, lorsque j'ai fait ce séminaire, le pasteur de l'église était pas là, avec la femme du pasteur qui était là. Le pasteur de l'église était dans son pays au Congo. Lorsque je suis rentré, il n'était pas encore arrivé. Mais je vous dis, il y a un mois, ce jeune homme m'a écrit pour me dire, quand le pasteur est rentré, il m'a dit, Dieu l'a parlé depuis le Congo. Il dit, Dieu m'a parlé, je dois te ordonner pasteur. Et j'attends le billet d'invitation pour l'ordination. Alléluia! Hey! Il faut que le peuple de Dieu rentre à sa destinée. Alléluia. Il y avait un jeune homme, il était dans le groupe Louange. Il était grand de taille, pareil comme Victor. Chaque fois que je le voyais, je pensais à Victor. Il jouait au piano, il était là et tout. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'il aimait tellement le Seigneur. Pareil. Et chaque fois qu'on le voyait, on pensait à lui. Et durant tout le séminaire, j'avais aucune parole pour lui. À la fin, il me dit, mais pasteur, pourquoi tu ne prophétises pas sur moi? J'ai dit, mais j'ai rien. Et il est rentré chez lui, il a prié et dit, Seigneur, si cet homme-là est venu pour me bénir, ce n'est pas moi qui irai vers lui, c'est lui qui viendra vers moi. Tout le monde a pris des entretiens avec moi. Lui n'a pas pris d'entretien. Et pendant que tu dormais, le Seigneur me dit, appelle-le. Je l'appelle, je lui dis, tu vois l'entretien. Quand il est venu, je dis, voilà ta situation aujourd'hui. Tu aimes une soeur en Christ. Ça va être ta femme, mais ce n'est pas le moment. Attends encore. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Mais tu as un problème en ce moment. La réalité, c'est qu'en fait, tu te cherches dans le groupe Louange. Parce qu'il y a des onctions, comme des onctions qui gravitent en toi. Tu as tendance à être dans le domaine prophétique, tu as tendance à être dans l'évangélisation, tu as tendance à être dans la louange. Tu ne comprends pas où Dieu t'appelle. Maintenant, voici ce que Dieu va faire avec toi. Dieu t'appelle à être évangéliste. Seulement, avant d'être évangéliste, Dieu t'appelle d'abord à être un adorateur. Pour connaître son cœur. Parce que ton onction d'évangéliste sera accompagnée d'une dimension de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Donc, à cause de ça, Dieu t'amène dans le cœur de l'adoration pour le connaître. Et la première chose que Dieu va faire avec toi, il va te promouvoir. Tu auras un poste de responsabilité dans le groupe Louange. Et lui, ça n'a pas tardé. Lui, c'est 2 semaines après, il m'appelle, on m'a mis responsable du groupe Louange. Alléluia! Non, je ne vais pas tout vous dire, il y avait tellement de choses. Alléluia. À l'île de la Réunion, j'ai béni le Seigneur, j'ai vu ce jeune homme-là, un petit garçon qui avait 6 ans. Sa mère vraiment était triste parce qu'il n'avait jamais marché de toute sa vie. Et on a prié pour lui. Bien-aimé, comment l'onction de Dieu peut traverser le corps de quelqu'un? Et j'ai vu cet enfant qui s'est levé comme ça, il a fait 7 pas. 1, 2, 3, 4, tout le peuple était debout. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Au point que l'enfant était traumatisé. Tellement le peuple acclamait le Seigneur, il a eu peur. Il est tombé, j'ai attrapé le. Relevez-le, il faut qu'il marche encore. 1, 2, 3 pas. Le peuple qui a encore dit, bon, c'est bon, vous l'effrayez tellement, prenez-le, amenez-le chez sa maman. L'enfant est resté toute la réunion sur les pas de sa mère. Il a dormi d'un sommeil profond. Et quand je suis rentré, il était 2 heures du matin quand on est rentré, le Seigneur m'a dit, continue à prier pour ce garçon jusqu'à ce que le Seigneur a fermé ses membres. Parce qu'il est encore maigre. Il a passé toute sa vie comme ça. Il faut que le Seigneur fasse pousser les membres maintenant. Pour qu'il tienne bien sur ses 2 pieds, qu'il ne perde pas l'équilibre. J'ai passé 1 heure de temps à prier en langue pour quelqu'un. Jusqu'à 3 heures du matin. afin qu'il rentre dans sa destinée. Et quand on est rentré, le lendemain, ses parents m'ont appelé pour me dire, leur fils a complètement changé. Même son visage devient rayonnant. Et jusqu'à présent, je suis en contact avec eux, parce que je suis ce dossier de très près.
Alléluia.
Jusqu'à ce que ça aille jusqu'au bout, et que le nom du Seigneur soit glorifié en France. Ce soit un témoignage complet.
Alléluia.
Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je veux que chacun d'entre vous rentre dans sa destinée. C'est avec le thème de... c'est mon message. Mon ministère est orienté, avec mon épouse, notre ministère est orienté vers cela, vous faire rentrer dans votre destinée. Et je vais simplement parler pendant quelques minutes pour introduire. Je vais vous parler de la foi qui opère des miracles. Je vais vous partager un seul point. La foi qui opère des miracles. La Bible dit que dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai lu dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, que la volonté de Dieu, c'est que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair. Donc, même sur toi. Le but de Dieu, c'est de t'utiliser pour manifester sa puissance, pour opérer des miracles. Quand je parle de la foi qui opère des miracles, je veux dire que la foi qui opère des miracles n'est pas l'apanage des pasteurs. La foi qui opère des miracles n'est pas l'apanage des anciens de l'Église, ou la foi qui opère des miracles n'est pas l'apanage des évangélistes. Ils ont certainement une onction spéciale pour faire ces choses. Mais la foi qui opère les miracles est à la portée de tout chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit, qui ont la foi en la parole de Dieu. Et dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront la foi. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les évangélistes, etc. La volonté de Dieu pour nous, dans cette église, c'est que quand on rentre dans cette année, cette nouvelle saison, chacun d'entre nous soit capable d'opérer des miracles. Dans sa propre vie, dans sa famille, dans son environnement, pour impacter son environnement. Que quand on rentre ici, dans cette église, que ce soit réellement le centre de l'évangile. Que pendant que je suis en train de faire des entretiens quelque part avec quelqu'un, d'autres personnes sont en train de prier pour les uns les autres ici. La même onction se manifeste. Avec les responsables, hier, lors de la retraite spirituelle qu'on a eue, on a vu que Dieu a dit à Moïse que appelle tous les anciens et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. La volonté de Dieu pour une église, c'est que l'onction qui descend sur la tête, l'huile qui descend sur la tête, coule sur le long du corps. Il n'est pas normal que dans cette église, vos pasteurs croient à la guérison, ils croient à la délivrance, ils font des choses comme le témoignage que j'ai dit tout à l'heure et que vous ne soyez pas capable de faire. Et Dieu m'a dit qu'il faut qu'on vous fasse entrer dans cette dimension. Pour vous aider, mais premièrement, je me redis une chose. Le miracle n'est pas conditionné par ton degré spirituel. Le miracle n'est pas conditionné par ton degré de maturité spirituelle. Vous pouvez le noter. Ceux qui prennent des notes, vous pouvez le noter. Le message n'est pas conditionné par ta piété. Et Pierre l'a dit lorsqu'il a guéri avec Jean, ce paralytique qui se trouvait à la porte, la belle. Les gens étaient étonnés. Il a dit, mais pourquoi vous nous regardez ainsi comme si c'était à cause de notre piété que cet homme se tient sur ses deux pieds. Opérer des miracles n'est pas conditionné par ta piété. Opérer les miracles n'est pas conditionné par ta nature. Tu peux être de nature faible, tu peux être de nature forte, peu importe ta nature. Il y a une différence entre la nature de l'homme et les dons de l'esprit. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un. Il y a des gens, par exemple, il n'est pas tout à fait clean avec le Seigneur, mais il parle en langue. Il prophétise. Il vit encore dans le péché. Il fume encore, mais il prophétise. Il parle en langue. Vous allez tenter de dire, mais ce n'est pas crédible, donc je rejette et la personne et son message. Vous aurez raison, parce qu'il n'est pas crédible. Mais la vérité, c'est quoi? La Bible déclare au sujet des dons spirituels que Dieu fait grâce à qui veut. Cet homme qui est faible, cet homme qui est encore dans le péché, cet homme qui a encore des manquements dans sa vie, ce n'est pas lui qui a choisi de servir le Seigneur, mais c'est Dieu qui l'a choisi depuis le ventre de sa mère. Et quand Dieu choisit un homme, il ne choisit pas quand il naît. La Bible déclare, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois encore dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà choisi. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc on ne devient pas serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand vous avez compris ça, vous comprenez qu'opérer dans le domaine du miracle n'est pas fonction de votre nature. C'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de don de l'esprit. C'est une affaire de Dieu. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Et le diable peut vous tenir captif dans la culpabilité en vous disant, tu n'es pas encore clean, tu fumes encore, tu bois encore, donc tu ne peux pas prier pour ta mère qui est malade. Tu ne peux pas prier pour ton frère qui est malade. Tu ne peux pas prier pour... Va appeler le pasteur, il va prier. Parce que toi-même là, si tu pries, ça ne marchera pas. Mais la Bible déclare que si tu as la foi, tu imposeras les mains malades et les malades seront guéris. La foi qui opère le miracle n'est pas focalisée sur la nature de l'homme, elle est focalisée sur les dons de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand on fait thèse, il faut toujours faire antithèse. Cela ne voudrait pas dire que on a maintenant le droit légal de continuer à vivre dans le péché. Parce que, bien aimé, si on opère le miracle en tant que chrétien, par la foi, on le fait en tant que chrétien. Mais si on veut rentrer dans la dimension de notre appel en tant que ministre de l'évangile, évangéliste, pasteur, docteur, prophète, il est important qu'on comprenne que les dons ne suffisent plus. Mais qu'en plus des dons, il nous faut la crédibilité. Il nous faut le témoignage. Il nous faut l'image. Sans cela que les hommes pourront écouter notre message et l'accepter facilement. Sinon, notre message sera vrai, notre don sera réel, mais les gens ne nous écouteront pas. Et nous fermerons les portes au royaume de Dieu à ceux qui voudront entrer. Est-ce que vous comprenez? Mais la vérité, c'est que le miracle n'est pas conditionné par ton état, par ta piété, mais c'est conditionné par la grâce de Dieu. Et si ta foi saisit ces choses-là, Tu ne seras pas dans la culpabilité. Lorsque Dieu te dira, prie pour telle personne, tu prieras parce que tu croiras que c'est Dieu qui opère. Alléluia! Premier principe. Deuxième principe. La foi qui opère le miracle, c'est la foi qui parle aux objets et aux circonstances. La foi qui opère le miracle, c'est la foi qui parle aux objets et aux circonstances. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu a créé a des oreilles? Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. L'homme a des oreilles, c'est normal, on est habitué, on a des oreilles, on entend. Le chien a des oreilles, bon, normal. Jusqu'à présent, vous me dites que c'est tout à fait normal. Mais si je vous dis que les arbres ont des oreilles, me croirez-vous? Si je vous dis que la pluie a des oreilles, si je vous dis que la lune a des oreilles, si je vous dis que les murs ont des oreilles, me croirez-vous? Lisons la parole de Dieu. Chroniques chapitre 16, verset 33. On va commencer par 1 Roi, chapitre 4, verset 33. 1 Roi, chapitre 4, verset 33. 1 roi 4, 33. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. 1 Chronique, chapitre 16, verset 33. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Juges chapitre 9. Juges chapitre 9. Juste après le livre de Josué. On va lire à partir du verset 8. C'est l'histoire de certains objets, de certains objets de la nature. La Bible dit que les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure des hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Alléluia. Pourquoi Jésus a parlé au figuier? Parce que le figuier avait des oreilles. Pourquoi Jésus a parlé à la tempête? Parce que la tempête avait des oreilles. Pourquoi c'est important ce principe? Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez jamais opérer dans le domaine du miracle. Lorsque vous priez pour quelqu'un, que ce soit pour une maladie, pour une circonstance, pour une situation dans sa vie, financière, peu importe la situation, vous devez comprendre que ces situations qui bloquent la destinée de cette personne ont des oreilles. Et que Dieu, en tant que chrétien, vous a donné le pouvoir, par la parole, de créer des miracles. Étant conscient donc de votre identité en Christ et de votre autorité spirituelle, étant conscient que ces situations ont des oreilles et qui vous écoutent, vous pouvez opérer dans le miracle. Alors vous pouvez parler à ces situations, à ces circonstances, avec l'assurance qu'elles vous écoutent. C'est pour ça que lorsque nous prions pour les malades, il ne faut pas dire, Seigneur, guéris ce malade. Ce n'est pas ça la prière de la foi. Regardez quand Jésus va prier pour un enfant qui était atteint de la fièvre. Qu'est-ce qui est fait? Il ne prie pas pour que l'enfant soit guéri de la fièvre. Il menace la fièvre. Il parle à la fièvre. Pourquoi? Parce que la fièvre avait des oreilles. Parce qu'on peut acclamer le Seigneur. Un jour, il y avait un frère qui me disait, je vis tellement de situations difficiles financières qu'un jour, j'irai parler au distributeur que donne-moi l'argent. Mais s'il a la foi, acclamons le Seigneur. Bien aimé, je ne suis pas en train de vous dire des choses mystiques. Je vous prêche la parole de Dieu. Voyez-vous, quand j'ai prié pour ce jeune garçon à l'île de la Réunion, je n'ai pas prié pour qu'il soit guéri. J'ai parlé aux nerfs. J'ai parlé aux cellules de son corps. J'ai parlé à ses membres. Parce que j'étais conscient qu'il m'écoutait. Est-ce que vous me comprenez? La Bible déclare dans Luc chapitre 10, verset 19, que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien. La Bible déclare que quand Christ est mort, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père, ce n'est plus lui qui descendra sur la terre pour venir opérer des miracles. Il a tout accompli. Et il nous a donné ce pouvoir à nous, l'Église. La Bible déclare que la domination entière repose sur l'Église. Nous avons reçu le mandat, l'onction, le manteau de faire exactement les mêmes choses que Jésus-Christ a faites sur la terre. Et il déclare que nous serons même capables de faire des choses plus grandes. Mais il était conscient que nous ne serons pas à son degré spirituel quand même. Il était conscient que nous ne serons pas à son niveau de connaissance de la parole de Dieu quand même. Qui d'entre nous peut dépasser Jésus-Christ en connaissance? Qui d'entre nous peut dépasser Jésus-Christ en plénitude? La Bible déclare qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Il n'y a personne sur la terre, comme on l'a chanté tout à l'heure, qui soit comparable à Jésus. Personne. Personne. Il est unique. Mais comment ce Dieu unique, sachant que personne ne peut l'égaler, va nous dire que vous ferez des miracles plus grands que moi? Acclamons le Seigneur. Le problème de l'Église, c'est quoi? On est bloqué dans notre culpabilité. On est bloqué dans des schémas de religiosité, dans un certain standard de ce que doit être en fait l'Église et la puissance de Dieu, au point qu'en fait on n'arrive plus à opérer dans le domaine du miracle. Parce qu'on a une fausse image de ce qu'est Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu, nous lui donnons des représentations, des choses qui sont sur la terre, on le compare à des choses qui sont sur la terre, dans le ciel, on ne sait pas trop qui est Dieu. Alors à cause de ça, comme c'est tellement imparfait ces représentations-là que nous faisons, alors ça a des limites et ça nous bloque. Même le tabernacle de Moïse était imparfait. C'était qu'une représentation des choses à venir. Il a fallu que Christ vienne et inaugure le tabernacle parfait, le tabernacle céleste. Parce que bien aimé, on peut tout faire pour représenter, essayer d'expliquer qui est Dieu. Même moi, pasteur, je ne peux pas vous expliquer réellement qui est Dieu. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Et pour vivre ça, il faut rentrer dans la dimension de la foi. Je peux essayer de vous dire, mais Dieu est comparable à... Voyez-vous, Dieu est comparable à un père. Un père qui a ses enfants et puis, bon, qui leur donne à manger tous les jours, voyez-vous. Mais un athée pourra me coincer en disant, mais un père, il peut manquer d'argent. Donc Dieu aussi manque d'argent, parfois. Et je dirais, mais non, Dieu, lui, en fait, voyez-vous, Il a toutes les richesses, c'est à lui qu'appartient leur argent, et puis il pourvoit tous nos besoins selon la grandeur de sa richesse, etc. Il me dira à la fin, mais donc pourquoi comparerais-tu Dieu à un père naturel? Parce que j'ai pris une représentation naturelle pour essayer de l'expliquer qui est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Quand on reste dans le domaine naturel, quand on reste dans le domaine du terrestre, on ne peut pas expliquer Dieu. Mais quand on commence à rentrer dans la sphère spirituelle de la foi, en ce moment-là, on connaît qui est Dieu. On le comprend. Parce que ce n'est plus le domaine de l'explication. Ça rentre dans le domaine de la révélation. Elle dit que la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au simple. Le peuple de Dieu, pour qu'il soit capable d'opérer dans le domaine du miracle, il doit quitter le domaine visible pour entrer dans le domaine invisible. Il doit quitter le naturel pour entrer dans le surnaturel. Il doit quitter le physique pour entrer dans le spirituel. Il doit quitter la logique pour entrer dans la foi. Parce que, bien aimé, il y a des choses qu'on va faire même dans cette église qu'on ne pourra pas vous expliquer. Mais si vous êtes connecté, si vous êtes dans l'esprit, si vous êtes dans la foi, vous comprendrez. Et donc, l'intérêt de comprendre que tout ce que Dieu a créé a des oreilles nous amène à réaliser que lorsque je parle de la part de Dieu, toute créature de la terre m'écoute. Et parce que je suis loin de Dieu, et que je suis vraiment rempli de l'autorité divine, mandaté pour cela, alors s'ils m'écoutent, ils sont obligés de m'obéir. Et quand on a compris ça, bien aimé, tout change dans notre vie. Notre foi prend une autre dimension et on peut opérer dans le miracle. Il y a pas longtemps, juste après notre ordination, oui, je pense, il y a deux jeunes sœurs qui étaient... C'était compliqué. C'est une affaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais leur bourse d'études était bloquée. Et ils ne pouvaient pas faire leur titre de séjour à cause de ça. Il y a plein de choses bizarres autour. Et bon, chaque fois, mon épouse me parlait de ça et je disais, bon, on va prier pour ça. Et alors que j'accompagnais le prophète Fletcher avec l'apôtre André, l'autre côté où il avait fait le séminaire, et là, je sens dans mon esprit qu'il faut que ce soir, même si je rentre tard, même si le séminaire c'est la mi-tard, il faut obligatoirement que je prie pour ces deux sœurs. Et donc, elles étaient venues à la maison passer le week-end avec nous et j'ai dit à mon épouse que quelle que soit l'heure à laquelle je vais rentrer, il faut qu'on m'attendiez, je dois prier pour elle. Je le ressentais fortement dans l'esprit. Bien aimé, quand je suis rentré, j'étais fatigué. Ma nature ne répondait plus. Mon corps ne répondait plus. J'aurais écouté mon corps, j'aurais écouté ma nature, je n'aurais pas pu opérer dans le miracle. Mais comme j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas moi qui opère, c'est Dieu. J'ai mis ma foi en ce que Dieu m'a dit dans le cœur, que prie pour ses deux sœurs, prie pour elles. On était vendredi, bien aimé. On a prié pour elles. On leur a fait une onction d'huile. On a prophétisé sur leur vie, dans le nom de Jésus. Bien aimé, aucune administration ne travaille le samedi et le dimanche. Aucune. On était vendredi dans la nuit. On a prié. Samedi, on a dormi. Dimanche, on est venu au culte. Dimanche soir, ces deux sœurs appellent mon épouse pour dire, leur papa a appelé, la bourse a été débloquée. La bourse a été débloquée. Les papiers arrivent, ils vont faire leur titre de séjour, ils vont continuer leurs études sans problème. Bon, maintenant on n'attend plus que la dîme. Amen. Alléluia. Amen. J'aurais écouté mon corps, je me serais dit, je ne suis pas en forme, je ne prie pas pour elle. Comme si c'était ma force qui opérait le miracle. Si vous me comprenez, en fait, je suis venu susciter quelque chose en vous ce matin. Je suis venu vous dire que c'est possible de faire des miracles comme Jésus a fait, mais même les plus grandes. Et que ce n'est pas l'apanage des pasteurs. Et que l'affaire de l'Église, ce n'est pas une affaire de nous, c'est l'affaire de nous tous, bien-aimés. Et que Joël a dit qu'il reprendra de son esprit sur toute chair, même sur vous, bien-aimés. Je vous ai partagé quelques principes seulement pour vous amener à comprendre qu'on peut rentrer dans notre destinée. On peut aider les gens dans notre environnement à rentrer dans leur destinée. Et on peut avoir de l'impact dans notre environnement, bien-aimé. Et ce n'est pas une affaire de niveau spirituel, de connaissance, de nature ou de... Non, c'est une affaire de foi. Et c'est pourquoi j'ai intitulé cette exhortation, en fait, la foi qui opère dans le miracle, qui opère dans le domaine du miracle. J'ai vécu des choses extraordinaires avec Dieu lorsque je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France avec un titre de séjour, plutôt avec un visa qu'on appelle visa étudiant concours. Ce visa a été limité à obtenir le titre de séjour à condition d'avoir obtenu le concours pour lequel je suis venu. Je venais passer mes études et j'ai été convoqué par l'université de Bordeaux 4 pour faire des tests. Je me suis mal pris depuis le Gabon pour faire mes démarches. En fait, je ne savais pas. Et je me retrouve avec un visa étudiant concours. Alors, j'étais conditionné à avoir cet examen. Sinon, je repartais dans mon pays. Et je suis arrivé. Mon épouse me dit, mais c'est pas possible. C'est pas ça le visa que je devais avoir. Je dis, mais je ne savais pas. Mais c'était fait. Et qu'est-ce que je fais? Je passe mes tests. Et quand je passe mes tests, on attend le résultat, je me suis dit, bon, il n'y a qu'à gagner. Je prie, Seigneur, je dis, Seigneur, vraiment, il me faut ces tests, tu sais, vraiment, Seigneur, etc. Le résultat tombe, j'ai échoué brillamment. Et comme c'est non-retour, ça veut dire qu'en fait, en ce moment-là, il fallait que je fasse mes bagages, que je retourne à mon pays. Le problème, c'est qu'à mon pays, j'avais commencé à travailler. Et mes parents, ils ont fait 10 enfants. Sur les 10 enfants, j'étais le seul qui a pu parvenir dans mes études. Et donc, j'ai commencé à travailler. Et j'ai aidé la famille, comme vous le savez, en Afrique. On m'a envoyé le neveu, la nièce. J'envoyais l'argent chaque fin du mois. Il y a des gens qui me comprennent. Alléluia. Et donc, quand j'ai dit à mes parents, je vais aller poursuivre mes études parce que je vais faire un troisième cycle, ils me disent, non, c'est catastrophique. Il y en a qui ont commencé à dire, oui, quand ils n'étaient pas mariés, vraiment, ils s'occupaient de la famille. Maintenant, à peine être mariés, parce que c'était quelques semaines après le mariage, voilà, la femme est venue changer son cœur. Et j'avais quitté emploi, maison et bien, j'avais tout vendu pour venir ici. Et qu'est-ce qui se passe? La préfecture m'écrit pour me dire, monsieur, vous n'avez pas obtenu votre examen, nous vous demandons de repartir dans votre pays. Je reçois, au bout de combien de mois d'affilée, 3 lettres de reconduction à la frontière. 3. On se retrouve là où on louait avec des dettes incroyables. 7000 euros de dettes, loyer impayé. Alors je vous passe les détails là. Loyer impayé. Les huissiers, l'agence ne pouvait plus. Au point que le propriétaire lui-même était obligé de... Comme l'agence ne pouvait plus rien faire, le propriétaire lui-même, il s'est déplacé. Il était 20 heures ce jour. Ma femme était enceinte. Il arrive, coco, 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 coco. Il rentre, sortez de ma maison. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis le propriétaire, sortez d'ici. Vous me devez 7000 euros, vous n'arrivez pas à payer votre loyer, partez. Femme enceinte, en plein hiver. Bon, on pouvait faire jouer la loi, etc. Mais ce qui est sûr, il était là, il était fâché. Donc je t'ai dit, Seigneur, j'ai fait comment là? Seulement Dieu m'avait dit qu'en fait, en m'amenant ici en France, ce n'était pas vraiment pour les études. C'était pour le servir. Et j'ai dit, Seigneur, si tu m'as réellement appelé ici pour te servir, alors il faut que tu opères le miracle. Il faut que tu opères le miracle. On a prié. On n'a jamais jeûné autant. On n'a jamais prié autant. Bien aimé, quand vous avez les problèmes, vous devenez un homme de prière. Non, ce n'est pas normal pour quelqu'un qui a des problèmes de ne pas devenir un grand intercesseur. Ça veut dire que même lui-même, il n'est pas conscient de ses problèmes. Même lui-même, il ne s'aime pas en fait. C'est un suicide quoi. Quand tu as des problèmes, tu es obligé de prier. Et on priait, on priait. Et chaque fois qu'on priait, Dieu a commencé à ouvrir nos yeux dans le domaine du monde spirituel, le monde de la foi. On a commencé à ne plus voir les choses de façon physique. On a commencé à voir les choses de façon spirituelle. Et un jour, par rapport à nos dettes, j'en reviendrai là-dessus, mais d'abord par rapport au papier. Le Seigneur me dit, va à la DDTE, quand on priait, va à la DDTE, tu auras un service qu'on appelle alternance. Tu leur diras, j'ai envie de poursuivre mes études dans telle école. L'école coûtait 10 000 euros. Bordeaux École de Management, à côté de la Talence. Et comme tu n'as pas de bourse, tu veux avoir un financement. Je suis parti. J'ai expliqué mon problème. La dame me dit, oh, il n'y a pas de problème, on peut te faire un contrat de qualification, etc. Alors sortez-moi vos papiers, etc., etc. Je sors les papiers. Votre titre de séjour, je n'en ai pas. Qu'est-ce que vous avez? Un visa. Quand on regarde le visa, périmé. Monsieur, ça ne vous va pas dans la tête. Vous venez demander un contrat de qualification alors que vous êtes en situation irrégulière. Vous ne pouvez pas. Je suis parti, Seigneur, est-ce que je t'ai entendu vraiment? Pourra me ridiculiser comme ça. Et en priant avec ma femme, je me suis souvenu d'une parole que la femme avait lâchée comme ça en parlant. Elle avait dit, mais si vous voulez, prenez rendez-vous avec la secrétaire pour voir le directeur, peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour vous, mais ça m'étonnerait. J'ai saisi cette occasion. J'ai appelé. On m'a reçu. La dame qui me reçoit, la directrice à cette époque, Monsieur m'a dit, comment allez-vous, etc. Je dis, ça va, mais pas vraiment. Et le Seigneur m'avait dit, quand tu arrives, prépare ton dossier, c'est pas toi qui parleras. Tu écris seulement ton problème. Lui, elle-même va lire, c'est moi qui parlerai dans son cœur. Je fais exactement ce que Dieu m'avait dit de faire. Je dépose le dossier. Elle lit, pam, 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 après fait. Ah, c'est compliqué. Elle dit, monsieur m'a dit, c'est pas possible. On peut rien faire pour vous. Vu comment j'étais, elle a essayé d'appeler à gauche, à droite pour essayer de trouver des solutions. Elle m'a dit, j'ai essayé de tout faire, mais on ne peut pas. J'étais triste. Au moment où j'ouvre la porte pour repartir, on s'est dit au revoir. J'entends, monsieur m'a dit. Je me retourne, revenez. Je m'assois. Elle me pose une question. Elle me dit, vous êtes tellement sympa, j'ai bien envie de vous aider. Elle me dit, mais même si vous aviez un titre de séjour étudiant, puisque vous êtes venu pour faire les études, vous ne pouvez même pas avoir un contrat de qualification. Parce qu'il faut un titre de séjour, vie privée familiale, salarié ou cadre de résident ou nationalité. Mais étudiant là, tu ne peux pas. Je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. J'étais là, je la regardais. Et puis à l'instant, elle me dit, bon, écoutez, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes sûr d'obtenir votre titre de séjour? La logique humaine, opérant dans le naturel, aurait voulu que je dise non. Parce que j'avais déjà reçu 3 lettres de reconnaissance à la frontière. J'aurais normalement dû dire non. Mais à l'instant, j'entends dans mon cœur la voix de l'esprit qui me dit, dis oui. Et le diable à côté qui me dit, si tu dis oui, tu mens. Et j'étais là, et la voix de l'esprit qui me dit oui, ça vient toujours avec une onction d'assurance. J'ai dit oui. Elle a dit ok, sous réserve de l'obtention de votre titre de séjour étudiant, je vous octroie à titre dérogatoire votre contrat de qualification. Signé, cacheté. J'ai dit, Seigneur, merci. Mais il reste encore un combat. C'est le titre de séjour. Selon le diable. Et qu'est-ce qui se passe? Je rentre à la maison, on prie. Il nous faut ce titre de séjour. Il nous faut. On a pris un avocat. Qu'est-ce qu'on n'a pas conseillé? Les procédures, etc. L'avocat a essayé de tout faire. Tout faire. Il m'a dit, mon frère, l'affaire là, l'État a raison. Parce que selon la loi, c'est une affaire qui est claire. Tu n'as pas eu ton examen, tu repars. Il n'y a pas de jurisprudence dans cette affaire. Le dossier était clôturé. Fletcher arrive. Il ne me connaissait pas. Je vais assister à son séminaire. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur. Il vient vers moi et me dit, toi, tu as un problème de papier. Il dit, oh, devant les gens comme ça, Seigneur. Je dis oui. Il dit bon. Je vous passe le détail. Il dit, je vois des lettres que l'administration va t'envoyer. Et le Saint-Esprit me dit que ces lettres-là, c'est celles que tu as déjà reçues, c'est déjà passé. Dis-lui que c'est passé. Il n'a qu'à dire la suite maintenant. Et je lui dis ça. Il me dit, ok. Maintenant, voici ce qui va se passer. Dans 2 semaines, tu vas avoir ton titre de séjour. Bien-aimé, au bout d'une semaine, l'avocat m'appelle. Il me dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Le tribunal administratif a ouvert le dossier. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faut que tu viennes à mon bureau, qu'on prépare l'audience ensemble. Bien-aimé, je suis parti, on a préparé l'audience. Le jour de l'audience, on arrive. L'avocat met sa robe là. Quand le juge prononce l'affaire, il se lève pour vouloir parler. Il n'a même pas dit un mot. Il n'a même pas pu avoir le temps de dire. Le juge a pris l'affaire du début jusqu'à la fin. Il a expliqué. Il m'a appelé moi-même devant. Il m'a posé des questions. J'ai expliqué comment je suis arrivé, etc. Ça pour faire quoi? Des études? Dans quel domaine? Ça. Et puis il me dit, mais en plus, vous parlez bien français. En plus, vous vous exprimez très bien. J'ai failli dire que je prêche aussi. C'est normal. Et là, il me dit, ben écoutez, en vertu des droits de l'homme, tout le monde a droit à l'éducation sur la terre. Donc on ne peut pas vous refuser ça. Quand vous êtes venu pour ça, alors on vous octroie votre titre de séjour. Voilà comment j'ai eu mon titre de séjour. Et à titre dérogatoire, mon contrat de qualification, ça a financé une formation de master en management de 10 000 euros là à côté. Une école, vous la connaissez. Pour entrer dedans, c'est compliqué. Dieu m'a fait rentrer dedans. Le problème, c'est que c'est moi, j'avais encore 7000 euros de dette, de loyer. Il y avait encore un autre combat là. Et je vais terminer avec ça. Un jour, je dors. On se réveille, il est 5h30. Je vois là, sur le mur de la chambre, un cliché qui s'affiche comme ça, paf, sur le mur. Je vois apparaître un homme. Il était tellement costaud. Il n'était ni noir, ni blanc. Il avait une couleur, comme si c'était roux, voilà. Comme si c'était roux. Et il était assis sur ce qu'on appelle des mortiers chez nous. On pile les affaires avec ça, au pays. Et il était assis dessus comme ça. Et j'étais un peu, je comprenais pas, et j'avais l'impression que je rêvais, mais en même temps, je voyais que le jour se levait, je me suis retourné, ma femme était là, et je me dis non, je ne rêve pas. Il y avait des bruits autour de la maison, je dis non, je ne rêve pas. Je suis vraiment réveillé. Et je vois cette image-là affichée. Bizarrement, je n'avais pas peur. Mais j'entends une voix dans mon esprit qui me dit, cet homme-là que tu vois assis là, qui te regarde, c'est le bourreau qui vous tient sous le joug de la pauvreté et de l'endettement financier. C'est lui. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas parler à cette image-là. Tu vas parler et tu vas ordonner à cet esprit-là de partir. Imaginez-vous, heureusement que c'était dans la chambre, parce que quelqu'un me voit en train de parler à une image, il va dire, je suis devenu fou. Mais c'est après seulement que Dieu m'a fait comprendre pourquoi il m'a dit ça, parce que l'image avait des oreilles. Alléluia. Et j'ai parlé au nom de Jésus. Tu lâches prise sur notre vie, sur nos finances. Tu lâches prise. Je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Tellement je criais, ma femme s'est réveillée. Elle est rentrée dans le combat avec moi sans comprendre. Elle était connectée à elle. Et après, je lui ai expliqué finalement ce qui s'est passé, ce que j'avais vu. On a prié, 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 prié. Bien aimé. Au bout de quelques semaines, je trouve du travail pour le contrat de qualification, donc une entreprise. Je suis embauché dans l'entreprise, donc j'ai un salaire. Mes études sont financées, j'ai un salaire de SMIC. Je commence à payer mon loyer. Les 7000 euros sont toujours là. 5 mois après, l'entreprise ferme ses portes. Elle fait faillite. Attendez, c'est le plan de Dieu. J'ai compris ça après. Quelques temps après, l'école me trouve une autre entreprise pour passer le stage. Donc, j'ai toujours la possibilité de payer le loyer. J'ai toujours pas l'argent pour payer la dette. Ce qui se passe, quoi? Un jour, on se lève comme ça, à la boîte aux lettres, on arrive, on ouvre la boîte aux lettres dans le courrier, on voit un courrier, caisse de dépôt et de garantie. On ouvre le courrier comme ça, un chèque de 7000 euros à l'ordre de M. Sosten Mabwadi. Pourquoi? Parce que selon le contrat de qualification, si l'employeur rend le contrat de qualification avant la date prévue, il est obligé de te payer le reste des mois. En entier. Mais c'est pour cela que je suis convaincu que je dois prêcher sur la destinée. Vous devez rentrer dans votre destinée. Alléluia. Vous devez rentrer dans votre destinée. J'ai réglé les problèmes, payé les dettes, etc., etc. Quelques temps après, ma femme reçoit un autre chèque d'indemnisation par rapport au congé de maternité parce qu'elle avait commencé une activité commerciale qu'elle avait arrêtée. Donc on l'a indemnisé et elle reçoit un autre chèque de 7000 euros. J'ai dit, on fait quoi maintenant là? On fait quoi? En bonus. On a acheté la voiture. Rover, alléluia. J'aurais aimé, alléluia. Il nous a trouvé dans l'abondance. Après une grossesse difficile, on sème avec larmes, on recorde avec chant de graisse. Dit la parole de Dieu. Lévons-nous, nous allons prier. Il est 12h30. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Quelle que soit ta situation dans cette église, finance, études, travail, les affaires, peu importe, notre Dieu est capable. Il est tout puissant. Et tu es capable, par la foi, d'opérer dans le domaine du miracle.
et de rentrer dans ta destinée. Si tu as saisi cette exhortation ce soir, tu as saisi ce message ce soir, élève ta voix et prie.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.